Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand plaisir de retrouver autour de cette table Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrero. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Bonjour Pierre.
Au sommaire de cette émission, quelle stratégie d'Emmanuel Macron envers ses alliés? Le président est sous le feu des projecteurs, pas forcément les plus avantageux. D'un côté, les dorures de l'Elysée pour Anthony Blinken, pourtant nouvel ennemi dans un cadre historique d'amitié. De l'autre, des critiques, voire des insultes sur le système politico-militaire algérien. Qui entretiendrait une rente mémorielle sur la guerre. Au Mali, idem, la légitimité du gouvernement de Bamako est nulle, a-t-il sèchement asséné avant de recevoir tous ses alliés et faire redescendre les tensions. À quoi joue le président Macron? Au poker menteur ou à une forme de « je t'aime moi non plus » Nous posons la question aux grandes voix. Le secret de la confession est-il plus fort que les lois de la République? La question est posée suite à une interview du président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, mercredi dernier sur France Info. Interview musclée où l'évêque a été interrompu, coupé dans sa phrase. Oui, mais voilà, le mot est lâché. Et alors qu'un rapport signale 216 000 mineurs victimes d'abus sexuels par des prêtres, cette comparaison lui vaut d'être attendue le 12 octobre prochain, mardi, dans le bureau du ministre de l'Intérieur. Erreur de com ou véritable question dont il faut débattre, nous le verrons. Nouvelle sortie de route pour Éric Zemmour. En comparant Jean-Michel Blanquer à Joseph Mengele, n'est-ce pas la parole de trop? Jusqu'où ces dérapages et dans quel but, sachant que ces dérapages sont signés d'un quasi-candidat à la présidentielle qui, selon un dernier sondage, se retrouverait au second tour, 17 à 18%, ce qui permet à Zemmour d'esquiver Marine Le Pen. Zemmour, le nouveau tour de force, on en parle tout à l'heure. Et puis nous rendrons hommage en fin d'émission au grand journaliste Étienne Moujotte, dont on a appris la disparition jeudi soir. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. Alors, il eût été facile pour moi de commencer par ce fameux « c'est à n'y rien comprendre ». Mais c'eût été inexact, parce que des choses à comprendre, il y en a, et les grandes voix vont tout vous expliquer. Mais c'est vrai, l'équation est difficile. Que fait Emmanuel Macron avec ses alliés? Pas qu'avec les Américains ou les Anglais, mais aussi avec les Maliens, les Algériens. Après avoir donné un coup de semonce en rappelant deux ambassadeurs, geste rare, ces deux ambassadeurs sont repartis à Washington et à Canberra, comme si de rien n'était. Parallèlement, deux sorties à l'AK-47 contre deux autres pays Miami, l'Algérie et le Mali, critiquant ouvertement le système judiciaire pour l'une et la légitimité gouvernementale pour l'autre. Le service après-vente Macron, c'est la flatterie entrevue avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, sous les dorures de l'Élysée, pourquoi pas Versailles. Flatterie envers les Algériens et les Maliens, on frappe et on s'excuse. C'est quoi cette technique?
Vous savez, c'est le en même...
Gérard Carrero.
Le en même temps, il a ses vertus et ses difficultés à l'intérieur. Mais bon, ça marche plus ou moins. Mais le en même temps, c'est extrêmement difficile à faire en termes de diplomatie. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est avec un pays, tout d'un coup, extrêmement ami, extrêmement proche, on fait des gentillesses, on fait des courbettes, etc. Et puis quelques temps après, dire le contraire. Et là, je pense que, comme il s'est passé 4 ans depuis que le président de la République est à son poste, eh bien, il y a des choses qui, peu à peu, graduellement, sont devenues des ratées. Alors, vous avez souligné, je ne vais pas m'attarder du tout, mais vous avez souligné l'Amérique. L'Amérique, il a cru qu'il allait nouer, effectivement, un lien privilégié avec Biden, après avoir été extrêmement, je dirais, chaleureux à l'égard de Trump. Il ne faut pas oublier comment il avait été reçu à Paris avec les grandes pompes républicaines. Mais après, il a fait du Biden, etc. Et là, il n'a pas vu venir le mauvais coup des sous-marins. Et ce n'est pas le clinquant Blinken. Le clinquant Blinken, il a un seul avantage, c'est du clinquant in French. C'est-à-dire qu'il parle en français, mais il défend aussi fermement les intérêts américains. Bon, mais ça, c'est l'exemple américain, mais on peut faire la même chose pour l'Algérie. Pendant 4 ans, il a donné des gages aux Algériens en permanence. Il a parlé, évidemment, de la décolonisation, ce crime contre l'humanité, etc. Il a donné aux Algériens... Les Algériens ne nous aiment pas, c'est bien connu. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République maintenant. Mais au début, il a fait comme s'il nous aimait. Alors, il leur a donné des gages et des gages et des gages. Et aujourd'hui, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas et que finalement, à chaque fois, on trouvait les Algériens sur d'autres chemins. Le fait qui a créé le problème, ça a été l'immigration. Ça fait des années qu'on dit que l'immigration, effectivement, les Algériens ne voulaient pas reprendre, par exemple, leurs condamnés qui auraient dû être expulsés. Eh bien, il a fait le clash là-dessus. Il a raison. Et du coup, il a fait du Macron, c'est-à-dire qu'il en a rajouté 3 tonnes en disant que les Algériens, c'était la rente mémorielle, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Puisque
c'est
les
vrai.
Autres...
Charles,
c'est vrai.
Il a dit des choses vraies. D'ailleurs, le président de la République qui vient de décéder il y a quelques semaines en Algérie a entretenu cette haine de la France. Il aurait mieux fallu que Bouteflika sorte justement en rapprochant les deux anciens adversaires. Le pays colonisateur
qu'il a pas su faire.
Et le pays qui a subi. Non, au contraire, il a entretenu cette rente mémorielle. C'est vrai. Bon. Mais on ne peut pas le dire face à des enfants, d'ailleurs, enfants de harkis, enfants d'anciens combattants du FLN, enfants de pieds noirs rapatriés, qu'il a rassemblés, 30 jeunes gens, dans un dîner à l'Élysée ou un déjeuner, etc. Évidemment, c'est sorti. Ça a été reproduit, notamment dans Le Monde. Évidemment, c'est parvenu aux oreilles, si vous voulez, des Algériens. C'est du gouvernement politico-militaire. On sait très bien comment ça se passe. Il ne faut pas oublier que les Algériens, aujourd'hui, sont plus de 42 millions. Quand la France a quitté en 1962 l'Algérie, ils étaient 7 millions. Il y a 1 million de jeunes Algériens de plus.
Tous les ans.
Tous les ans. Mmh. Bon. Et donc, si vous voulez, par rapport à ça, alors que la France, et notamment là j'en viens aux États-Unis, et Gérard a très bien expliqué la situation, alors que la France a un statut de puissance nucléaire, membre inamovible du Conseil de sécurité, la France en permanence est suiviste, systématiquement soumise à la politique américaine.
Il n'y a pas d'autres moyens ?
Et bien sûr qu'il y a d'autres moyens. Bien sûr qu'il y a des moyens d'abord de mettre à l'étude pendant 3-4 mois le fait qu'on soit revenu dans le commandement intégré, le quitter sans quitter l'alliance et prendre ses distances. Et croyez-moi, les Américains n'auraient pas apprécié. La France a été évincée de l'affaire des sous-marins, des 12 sous-marins de type classique, contrat signé par Naval Group avec l'Australie, parce qu'on sait très bien qu'on la considère, et les Américains le premier, comme le maillon faible de l'affaire. Parce que c'est entre anglo-saxons, ça, alors que 60% du commerce maintenant va se déroule d'ailleurs dans la zone indo-pacifique, que la France est la deuxième nation mondiale en propriété maritime.
Mais alors pourquoi cet entretien avec Anthony Blinken sous les dorures de l'Élysée ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ?
On rattrape l'affaire, exactement ce qu'a expliqué Gérard.
Ouais.
C'est-à-dire on le reçoit comme un pote, finalement, après avoir rappeler nos deux ambassadeurs, on les renvoie, et finalement, qu'est-ce qu'il y a au bout ? Rien.
Non, mais c'est vrai que...
Chez le quota.
En gros, la réaction qu'on aurait pu prévoir, et d'ailleurs peut-être qu'on aurait appelé de nos voeux, c'est on quitte l'OTAN, on quitte le commandement intégré de l'OTAN, et on fait un gros... Bon. Maintenant, est-ce que c'était...
Ce qu'a fait De Gaulle en 66.
Mais je vous rappelle que c'est Sarkozy qui a ramené quand même la France dans le commandement intégré, en disant, si vous voulez, que l'Union européenne doit pouvoir, en tant que besoin, s'appuyer sur les moyens du commandement et de la planification que l'Alliance met en jeu. C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui de quitter cette Alliance-là, comme ça, sur un mauvais coup des Américains. Et en plus, est-ce que c'était le moment ? Est-ce que c'était le moment
pour...
Oui, mais est-ce que c'était le moment
je ne
au
suis
moment
pas
où il prend la... Oui, mais encore une fois, moi personnellement, non, puisqu'on est d'accord sur le commandement intégré.
Mais on ne quitte pas l'alliance.
Si j'avais été président,
on ne quitte pas l'alliance,
je serais parti.
Michel.
Mais je comprends très bien.
Tu m'entends ? On ne quitte pas l'alliance.
Non, on quitte
pour
le commandement intégré.
On tire le commandement. Et pour autant, les Américains ont besoin d'apporter leur appui, notamment dans des conflits africains au Mali, les drones, notamment tueurs.
Macron prend la présidence de l'Union européenne aujourd'hui, qu'il est favorable à une défense européenne qui soit compatible avec l'Alliance américaine.
Oui. Catherine,
été mal choisi. Voilà, peut-être aurait-il pu effectivement faire autre chose.
Oui, moi, je crois que dans cette histoire... où les Américains ont créé une alliance parce que maintenant leur obsession est la Chine avec l'Australie et donc leur ont fait la proposition de construire. Ils n'ont pas tellement pensé à la France. Ils ont pensé que c'était aux Australiens de prévenir la France en disant « on vous quitte ». Donc, lui, ils ont rejeté la faute sur la France. C'était pas eux, puisqu'ils avaient accepté. Bon. Mais je crois que, surtout, ce qui a changé, c'est que, pour Macron, aujourd'hui, sur la défense européenne, il a cru à un moment convaincre les Européens parce que Trump leur avait dit « maintenant, débrouillez-vous, maintenant, c'est fini ». Tandis que ce n'est pas du tout ce que pense aujourd'hui Biden. Ils veulent continuer à exercer une suprématie en Europe. Et dans le communiqué qui a été diffusé après la discussion téléphonique entre Joe Biden et Emmanuel Macron, ne figurait aucune référence à la défense européenne. Donc les Européens, ils veulent continuer à avoir le parapluie américain. Ils ne veulent rien changer. Il y a eu une fenêtre de tir à un moment, au moment de Trump, mais maintenant c'est fini, vous voyez. Donc c'est ça qui change tout.
Oui, c'est long. Je crois que Catherine vient de très bien dire ça. C'est l'ambiguïté absolue de Macron entre un hyper-européanisme, il est, on le dit souvent, européen, super européen, etc. Et le désir, malgré tout, de ne pas se fâcher avec la puissance américaine. Donc on a l'atlantisme, laisse-moi finir une seconde Michel, l'atlantisme contre l'européisme. Et on ne peut pas être les deux. Alors on peut être européen, d'autres régimes avant, d'autres présidents avant, ont quand même essayé de maintenir le lien européen, tout en ayant de bonnes relations avec les États-Unis. Mais là, on arrive à un moment où les Européens, et ça on ne le dira jamais assez, tous les Européens, sauf la France, veulent le parapluie américain. Il n'y a que nous qui rêvons d'une puissance européenne, d'une puissance militaire européenne, qui ne peut pas voir le jour structurellement. Absolument. Et on est 27 pays sur les 27, il y en a 25 qui ne veulent pas de la puissance. Voilà. Et vous le dire,
c'est pour ça que ça relève du fantasme.
Une première pause, les grandes voix, on revient juste après, on reparle de Macron et de ses alliés tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. On revient sur justement cette croisade américaine, si j'ose dire. Michel Cotta.
Tout ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que l'Europe, et encore moins la France, soit entraînée dans la croisade, enfin il me semble, entraînée dans la croisade américaine contre la Chine et contre Moscou. Parce que ça, pour le coup, ce serait un suivisme catastrophique pour nous. On se dit quand même... On continue à se demander pourquoi la Russie a été comme ça rejetée, comme on l'a fait du côté de l'Asie. Et une croisade américaine, c'est pas possible de la suivre, nous. Donc on va avoir, quoi qu'il se passe, des problèmes graves, y compris avec Biden, qu'on a accueilli les bras ouverts. Il faut peut-être fermer les bras.
Catherine, vous vouliez revenir sur l'Algérie.
Oui, parce que l'Algérie, on dit, ben Macron, il y a deux lignes. Bon, mais lorsqu'il parle en 2017, qu'il va en Algérie, Bouteflika est encore au pouvoir, dans un mauvais état, mais on pense qu'il est là pour longtemps malgré tout. Et on a l'impression que c'est un pays qui tient. Et donc, il est venu faire sa cour en disant le crime contre l'humanité, promis qu'on allait regarder ça avec les historiens. D'ailleurs, il a créé ce rapport avec Benjamin Stora qui a dit tout ce qu'il y avait de notre côté. Mais en revanche, les archives ont été fermées aux historiens algériens qui n'ont pas le droit d'aller voir ce qui s'est passé côté algérien. Donc, il a fait de l'unilatéral. Mais à l'époque, il pensait que c'était peut-être aussi lui concilier un électorat franco-algérien. En tous les cas, le pouvoir était tellement surpris de sa gentillesse qu'ils ont œuvré pour faire œuvrer là où ils ont pu pour faire voter pour lui. Aujourd'hui, ce qui est complètement changé, l'Algérie, bon, c'est toujours les militaires qui sont au pouvoir, mais avec un président qui a été élu par 10% des Algériens qui ne sont pas allés voter, une société civile qui est en pétard et qui est en train de changer, même si rien ne change en apparence. Et c'est sur eux qu'il s'appuie aujourd'hui, Macron, sur cette société civile qui en veut contre le pouvoir. Quand il dit politico-militaire, il ferait mieux dire militaro-politique. Oui. Tebboune est dans les mains des militaires. Donc il les a d'abord... Là, il change. Et là, il veut séduire qui? C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les familles algériennes qui voient que leur famille qui reste en Algérie, les Français d'Algérie, les Français franco-algériens, qui voient que c'est de plus en plus difficile de vivre en Algérie, que pendant le Covid, la situation des hôpitaux a été terrible et que ce pouvoir ne répond plus. Donc on peut lui mettre sous le nez les choses qui ne vont pas parce qu'on se met bien avec... D'abord, on se réconcilie comme ça avec les pieds noirs. on se réconcilie avec une société algérienne, qui est encore, franco-algérienne, qui a encore de la famille en Algérie et qui voit bien que le pouvoir, ça ne va plus.
Je veux dire simplement un mot, parce que j'ai dit tout à l'heure, et j'ai vu des yeux étonnés autour de la table, j'ai dit les Algériens ne nous aiment pas.
Mais c'est vrai, ça.
Je vais expliquer mon propos. Ils ne nous aiment pas, pourquoi ? Parce que trois générations de petits depuis la guerre, depuis la fin de la guerre d'Algérie, 62, les accords d'Évian, 62, trois générations de petits Algériens ont été chauffés à blanc à l'école par chaque fois qu'il y avait un problème en Algérie, et ça dure encore aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème, la France est le bouc émissaire. La France, c'est le méchant. Oui. Ce sont les Français qui ont fait, à cause d'eux, que c'est comme ça. Il n'y a pas à bouffer, c'est à cause des Français. Il n'y a pas de ceci, c'est à cause des Français. Donc, effectivement, il est bien normal...
À chaque élection présidentielle, on réconcilie les Algériens contre la
France.
Donc,
on a dressé cette population. Et ce n'est pas moi qui le dis tout seul, puisque M. Macron, dans son fameux discours, dans ses fameux propos, dit... Je cite, une histoire officielle totalement réécrite qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours de haine de la France. Un discours de haine de la France. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Monsieur Macron.
Non, mais non, il ne l'invente pas, il leur dit aussi...
C'est pour ça que nous disions, avec Charles, que c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Le problème est de savoir le moment où il le dit. Alors, c'est vrai aussi pour le Mali. Il a raison de dire que effectivement c'est le résultat celui qui est là aujourd'hui
est le produit d'une junte illégitime.
Il a raison. Le problème est de savoir est-ce que ça fait avancer les choses, est-ce que ça les fait reculer. La vérité n'est pas toujours bonne en diplomatie.
Ça fait parler et donc du coup ça fait réagir, ça peut pas faire avancer.
Non mais la vérité n'est pas toujours bonne en diplomatie.
Il y a deux choses clés dans la politique française par rapport à l'Europe, par rapport au pourtour méditerranéen. Il y a deux pays qu'il faut surveiller pour la politique française, la politique étrangère française, comme la prunelle de ses yeux. C'est l'Allemagne, d'une part, et c'est l'Algérie. L'Algérie est la puissance déjà d'aujourd'hui et la puissance de demain, avec un taux de naissance considérable. Bon, et la plus grande
partie...
Oui,
mais une rente pétrolière qui baisse. Hein,
non, mais attends. Chaque chose en son temps.
D'accord.
Et donc,
Catherine, attends.
Partant de là, la plupart des Maghrébins qui sont en France sont algériens. C'est la raison pour laquelle il faut surtout être très attentif au développement de cette opinion-là, comme l'a très bien expliqué Gérard, qui est dressée contre la France et les intérêts français.
Et pourquoi l'Allemagne ? L'Allemagne,
parce que tous nos accords sont avec les Allemands, parce qu'il est très important que le lien franco-allemand tienne. L'Europe ne tient d'ailleurs qu'au lien franco-allemand.
Encore aujourd'hui.
C'est ça, bien sûr. D'ailleurs, rappelez-vous que Emmanuel Macron a réussi une très bonne opération. C'est lui qui a réussi à convaincre Merkel de mutualiser la dette, 744 milliards. Et ça, c'est important. C'est vrai que Merkel, c'est pas pour les beaux yeux des Français qu'elle a accepté ça, c'est parce qu'elle veut garder les marchés européens, bien évidemment.
Quand elle voit les Chinois qui s'éloignent.
Mais il n'empêche que c'est un très beau coup. C'est la raison pour laquelle ce qui se passe entre la France et l'Algérie est stratégique.
Catherine, vous voulez intervenir ?
Oui, non, ce que je trouve, c'est que Macron dise, il rappelle qu'il y avait une Algérie avant 1830. C'est rappelé aux Algériens, mais qu'avant c'était l'Empire ottoman et qu'ils étaient colonisés par des musulmans et qu'ils n'ont pas eu une vie très drôle avec une colonisation par des musulmans.
Ils avaient eux-mêmes colonisé les Berbères après d'autres.
C'est rappeler un peu d'histoire, faire un peu d'histoire avec eux. Mais je crois que pour la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse algérienne qui a manifesté ce qu'on a appelé le Irak. Pendant des mois et des mois, avec un général qui, toutes les semaines, disait qu'ils étaient des traîtres. On a emprisonné des journalistes, on a emprisonné des jeunes. Oui. Mais il y a une jeunesse en révolte. Alors, c'est vrai qu'en disant plus de visas, cette jeunesse peut se braquer contre la France.
Voilà, et on parlait des Allemands, les Allemands qui d'ailleurs en ont profité la semaine dernière pour signer un accord sur la défense spatiale avec l'Australie. Donc, effectivement, on attendait des Allemands qui réagissent sur nos sous-marins. Eh ben, ils sont allés signer un accord sur la défense spatiale avec l'Australie. C'est comme ça que ça se passe en Europe. 10h29, les grandes voix reviennent dans un instant, tout de suite.